Maxime Rovert, bonsoir.
Bonsoir.
Nous sommes très heureux de vous accueillir. Maxime Rovert, vous êtes chercheur indépendant en philosophie. Vous avez commis de nombreux livres, vous avez dirigé une très belle traduction commentée de l'éthique de Spinoza. Vous avez en début d'année fait paraître un livre qui s'appelle Parler avec sa mère. Et puis, on a eu le plaisir d'échanger ensemble à l'occasion d'un livre qui s'appelait Le livre de l'amour infini, sur une figure méconnue de l'histoire justement de la philosophie antique. Aujourd'hui, vous revenez avec deux livres d'une figure beaucoup moins méconnue, enfin justement méconnue, on y reviendra, en tout cas dont le nom est extrêmement fameux, puisque c'est Sénèque, avec donc ces deux ouvrages que sont à la fois une nouvelle traduction de votre main des lettres à Lucilius, qui est ce grand monument justement de la littérature antique, de la philosophie antique, mais comme tous les grands monuments, des fois on oublie un peu de les visiter. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir avec vous justement ce qui est dedans, ce qui s'y trouve. Et puis, justement, pour accompagner cette lecture, vous publiez « Vivre debout et mourir libre », les dernières leçons de Sénèque. On y reviendra évidemment aussi. Votre souhait avec ce petit livre, c'est d'être plutôt du côté de l'introduction, même de l'invitation à la lecture des lettres à Lucilius, ne pas faire écran, ne pas se dispenser de ce gros volume parce qu'on aura lu le petit. Au contraire, et ça je le confirme, dès lors qu'on a lu ce petit livre, on n'a qu'une envie, c'est de voir de près et au long cours, puisque c'est une lecture au long cours, celle des lettres à Lucilius, ce qu'il y a dans ce livre et dans ce grand monument. Alors, peut-être, avant de rentrer justement dans l'analyse que vous faites des lettres à Lucilius et de ce qui semble pour vous ces dernières leçons de Sénèque, comme tout, on le disait, comme toutes les choses à la fois très connues, souvent elles sont un peu ignorées, peut-être est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le cadre de qu'est-ce que c'est que Sénèque au moment où il écrit les lettres à Lucilius, parce que c'est à la fois une très grande carrière et philosophique et politique, et on ne peut pas séparer l'un de l'autre chez Sénèque, et puis en même temps, ce qui vous a amené, vous, dans votre parcours de chercheur, justement, à vous dire, bah là, c'est le moment, justement, de retraduire ce livre-là, ce qui, j'imagine, vous a pris un certain temps, et puis en même temps, de se dire comment est-ce qu'on pourrait en accompagner la lecture.
Alors, c'est vrai que Sénèque est une figure particulière parce qu'il est beaucoup lu par les lecteurs et les lectrices qui s'intéressent à la philosophie et puis qui sont séduits par des titres, la tranquillité de l'âme, la brièveté de la vie, qui donnent envie, enfin qui font percevoir l'angle un peu existentiel de cette philosophie. Alors qu'il est un peu délaissé des universitaires qui le voient comme un auteur romain qui est principalement un écrivain. Et pour comprendre un peu ce malentendu, il faut comprendre qu'il y a deux Sénèques, il y en a même encore plus, mais pour le dire en un mot, on peut dire que Sénèque, c'est d'abord un Romain qui, issu de petite noblesse, a réussi à l'époque de Néron. Je ne vous fais pas toute sa vie, mais en gros, il a été le précepteur donc, de Néron. Et au moment où ce jeune homme accède au trône, du coup, le précepteur accède à un statut qu'on appelle ami du prince et qui fait de lui son conseiller intime. Et puis, comme vous savez, Néron va suivre une carrière de plus en plus violente. Il va éliminer de plus en plus de ses opposants. Et Sénèque, à un moment, va vouloir se retirer, notamment parce que parmi les opposants, il y a Aeneas Sérénus, qui est son meilleur ami, qui est assassiné en 64. Il y a Burrus, qui est le préfet du prétoire, c'est-à-dire c'est comme le général en chef des armées. Et lui aussi est assassiné. Et lorsque Sénèque voit ses plus proches alliés être assassiné, il sent bien que là, c'est le moment soit d'accepter de se renier lui-même et de devenir vraiment indigne, soit de se retirer. Il demande à Néron l'autorisation de se retirer et Néron, là, lui, refuse. Et pourtant, Sénèque se retire quand même. À partir de cette date, à peu près entre 62 et 64, on sait, Sénèque sait, que Néron va un jour ou l'autre le déclarer ennemi de l'État et donc lui demander de s'ouvrir les veines. Plus exactement, lui donner le choix de sa mort. C'est comme ça qu'on dit. Donc, celui que j'appelle le dernier Sénèque, c'est ce Sénèque qui a une préoccupation existentielle absolument centrale. Il écrit plus pour faire des livres. Il a fait de très beaux livres quand il était jeune. C'est-à-dire qu'il a fait à la fois des œuvres de théâtre qui sont encore jouées aujourd'hui, qui sont très dans une esthétique très gore, comme ça, il se passe des choses abominables. Il étudie la passion dans ce qu'elle a de plus violent. Et il a aussi fait des traités stoïciens déjà, mais qui sont souvent très bien écrits, qui sont souvent en fait des variations artistes sur une pensée stoïcienne qui est fondamentalement grecque et que Sénèque, romanise. À partir de 62, c'est un autre homme qui écrit, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui se prépare à une épreuve décisive, celle d'être condamné à mort. Et donc, moi, ce qui m'a touché dans cette posture, c'est vraiment sa puissance. C'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement lire les lettres à Lucilius comme une belle pièce de littérature et même comme une élaboration philosophique. Ce n'est pas vraiment ça. C'est quand même quelqu'un qui se ressaisit d'une tradition philosophique en disant « je veux que ça me change ». Et en particulier, « j'ai peur de la mort ». Et donc, il y a une chose importante à comprendre, c'est que cette peur de la mort, en fait, on l'a tous. Il n'y a pas besoin d'être condamné à mort pour ressentir, disons, une certaine réticence à ce rendez-vous-là. Espérer qu'il nous attende le plus longtemps possible, qu'il se déroule de la meilleure manière possible, etc. Et Sénèque est quelqu'un qui nous incite à faire de la philosophie quelque chose de tout à fait incarné. Et donc, ce qui m'a intéressé dans sa posture, c'est justement de faire de la philosophie une démarche qui ne laisse pas passer, disons, en sous-main et inaperçu les vraies peurs qui nous animent, mais qui, au contraire, va les appeler, les faire venir à soi. Donc la raison, la rationalité chez Sénèque, chez le dernier Sénèque, c'est une rationalité qui n'est pas vouée à construire une architecture conceptuelle qu'on appellerait la philosophie. Parce que la philosophie, ça va dans l'autre sens. C'est-à-dire, vous partez d'une architecture conceptuelle et il faut que vous arriviez à la faire descendre en vous, c'est-à-dire dans votre cœur, dans vos tripes, pour qu'ensuite vous ressentiez les choses différemment. Donc ce projet-là, moi, il me touche énormément. Et quand ma compagne me dit « Ouais, Sénèque, moi, je sais pas, je sais qu'il existe, mais j'ai jamais lu », j'ai dit « Banco, on va lire les lettres à Lucilius ensemble ». Comme elle est américaine, je les ai lues dans la traduction anglaise de Margaret Graver. Et là-dessus, je découvre un texte où Sénèque parle la langue de vous et moi. Et donc, je découvre une accessibilité. Sénèque est déjà quelqu'un qui écrit bien, mais en découvrant la traduction anglaise, je me suis dit, on peut faire ça. On peut faire entendre la voix de Sénèque, qui est quand même, en tant qu'écrivain, quelqu'un qui écrivait des phrases courtes. C'est l'anti-Cicéron. Cicéron, c'est vraiment l'élégance romaine rythmée avec des phrases comme ça qui rebondissent, bim, boum, bam, et qui tombent, paf, vraiment comme une petite danseuse de danse classique. Et Sénèque, c'est l'inverse, c'est-à-dire, c'est le type qui vous envoie des pierres, quoi. Il vous envoie des phrases qui sont les plus courtes possibles, les plus denses possibles, et il essaye, en fait, de bombarder le cœur d'images, d'impressions, de sons aussi, parce que c'est des choses qui vont vite, des phrases qui sont courtes, pour nous transformer. Et donc, quand on a découvert avec Sophie qu'en anglais, c'était si fort, j'ai regardé ce qu'on avait en français, et là, j'ai pas été fier. Pourquoi ? Parce que mes prédécesseurs sont des universitaires qui ne se sont jamais posés, et c'est tout à leur honneur, en tant qu'écrivains, et qui donc ont eu un rapport au texte qui était un rapport d'universitaire, qui, soucieux de traduire la syntaxe latine dans une phrase qui lui ressemble, etc., et donc qui n'ont pas fait un travail de ce que j'appellerais la traduction profonde. Une traduction profonde, c'est une traduction qui ose laisser tomber la syntaxe originelle de la phrase pour vraiment la reformuler depuis les manières réelles de dire dans la langue qu'on appelle cible. Et donc, c'est comme ça que je suis allé voir mon éditrice. Je lui ai dit, écoute, les lettres à Lucilius, d'abord, c'est pas disponible en librairie comme tel. Soit vous achetez les œuvres complètes de Sénèque, c'est beaucoup. Soit vous achetez des extraits choisis, c'est peu. Donc, pourquoi est-ce qu'on ferait pas enfin l'intégrale des lettres ? Et moi, je lui dis, je voudrais donner ma langue à Sénèque. Je voudrais l'entendre parler comme je parle moi dans mon quotidien tous les jours. Et donc, c'est ça qui a donné naissance à ce travail. Dont, entre parenthèses, je me suis dit, parce que la plupart de mes travaux naissent comme ça, c'est-à-dire, je ne me fais pas une vraie idée de leurs difficultés. Sans ça, je ne les ferais pas. Et donc, je me suis dit, bon, alors, je vais faire ça. Bon, je vais me prendre 2 mois, et puis j'y vais à fond, et puis c'est plié. Et puis, en fait, ça m'a pris 3 ans, quand même. Et donc, à l'arrivée, effectivement, l'idée, c'est de retrouver l'esprit de cette philosophie, qui est une philosophie, encore une fois, qui est pleine d'érudition, mais qui n'est pas faite pour les érudits, qui est une philosophie qui est extrêmement sophistiquée, mais qui ne doit pas laisser voir à quel point la logique est respectée, parce qu'en fait, ce n'est pas le but. Le but, c'est d'arriver à faire en sorte que des individus réels, vous et moi, arrivent à transformer leur manière de percevoir leur propre vie à partir d'un point de vue qui est très étrange, qui est celui de la mort. Et c'est de cette manière-là, en fait, qu'on va complètement changer notre manière de penser et de percevoir le monde.
Oui, on y reviendra à la fois sur deux aspects. Parce que vous évoquez le fait qu'il ne faut pas ramener l'être Lucilius à un beau morceau de littérature, et en même temps, et vous l'avez déjà évoqué, la diversité des moyens employés par Sénèque dans les lettres à Lucilius pour faire valoir sa pensée relève complètement littérature, et comme vous l'avez dit, il est extrêmement savant dans sa façon d'utiliser et les images et la brièveté et les sons, etc. Et qu'au contraire, il emploie l'ensemble des moyens à sa disposition dans un souci de conviction, mais dont on y reviendra évidemment quand on évoquera la question de la vérité. Donc vous dites, effectivement, c'est un livre qui a pour but de changer la perspective qu'on a de notre propre existence en prenant l'horizon qui est celui de notre finitude, même si on reviendra sur toutes ces notions, parce que c'est un livre qui est à la fois extrêmement clair et extrêmement subtil. Et donc, justement, pour essayer de marcher avec vous dans cette subtilité, vous avez découpé votre livre en cinq étapes possibles, en cinq leçons justement de Sénèque. Et la première d'entre elles, c'est celle de devenir invincible, qui est le premier moment. Et ce devenir invincible, dites-vous, c'est la question de comment est-ce qu'on aborde ce qui est une notion extrêmement importante pour les Romains, qui est la fortune. C'est-à-dire que la fortune, c'est on est sans cesse ballotté, soumis à des aléas. Comment est-ce qu'on peut être heureux alors que finalement, on a le sentiment qu'on n'est jamais maître de notre vie. Alors on sait que de façon, on va dire un peu Lagarde et Michard, la solution des stoïciens par rapport à ça, c'est on ne s'afflige que ce qui dépend de nous. Ce que vous dites effectivement de Sénèque, c'est que c'est beaucoup plus subtil que ça.
Oui, en fait, l'idée même qu'il y a une école de pensée en Grèce puis à Rome qui s'appelle le stoïcisme, ça a conduit, et le fait qu'on ait perdu la plupart de leurs textes, ça a conduit à lisser les différences entre auteurs et notamment à confondre un peu tout le monde avec tout le monde. Or, il se trouve que il y a des choses qui dépendent de nous et des choses qui dépendent pas de nous. C'est la première phrase du manuel d'Épictète qui écrit une génération après Sénèque. Et la manière dont Épictète lit le stoïcisme est différente de la manière dont Sénèque le lit. Et Sénèque ne parle jamais de cette manière-là. Il ne valorise pas tellement la volonté comme Épictète, et du coup, il y a autre chose là. Sénèque, c'est un autre stoïcisme. Et d'ailleurs, les épicuriens entre nous se moquaient des stoïciens, justement en disant c'est à peine une école, parce que de toute façon, il n'y en a pas un qui est d'accord avec l'autre là-dedans. Et donc, c'est très important de remettre en valeur les grandes différences entre ces auteurs. Alors, quand on vous dit invincible, peut-être que vous voyez tous quelque chose comme un gladiateur ou un type qui a un plastron là avec des faux pectoraux et qui serait capable en fait de recevoir tous les coups qui lui viennent de l'extérieur sans faiblir, sans avoir peur et sans être blessé. C'est pas du tout ça en fait qui se joue dans le stoïcisme de Sénèque. En fait, il va même carrément déconstruire cette figure de l'homme fort, souvent associé d'ailleurs dans l'imaginaire des Romains à des militaires, à des conquérants. Et Sénèque, lui, alors les images de conquérants, toutes les fois où il a l'occasion de les tacler, il le fait. Pour lui, Alexandre le Grand, c'est un sanguinaire qui a mis le monde à feu et à sang, et donc qui est l'image même de l'intempérance dans les désirs, puisqu'il en voulait toujours plus. Être invincible, c'est pas du tout opposer au coup du sort une force qui serait à tous les coups vainqueur. C'est l'inverse. C'est justement une manière d'accepter que par définition, donc ce que les Romains appellent la fortune, c'est-à-dire les aléas de la vie, ça monte et ça descend et ça ne cessera jamais. Ça, c'est le premier point. C'est-à-dire, dans la vie, parfois, on vivra des moments très heureux qui, entre parenthèses, s'interromperont, ce qui souvent pique. Et on vivra aussi des moments difficiles et douloureux dont on aura des difficultés à sortir tant qu'on tient à ce dont on est privé. En revanche, donc ça, si vous voulez, c'est ce qu'on peut appeler le règne de la fortune, ça veut dire la déesse fortune, celle qui est représentée par une roue, ça monte et ça descend, c'est un mouvement permanent, c'est impossible à arrêter. Donc encore une fois, pour nous, ce sont les aléas de la vie. Être invincible face aux aléas de la vie, ça signifie changer de système de référence. Ça signifie ne plus être à ce point attaché aux conditions extérieures dans lesquelles on vit. Et pour vous résumer les choses en une phrase, je dirais que c'est à tout moment se poser la question de la satisfaction. Comment dans la situation qui est la mienne, puis-je prendre une attitude qui me rendra satisfait ou satisfaite de ce que je suis ? Alors, quand vous êtes malade et que vous avez la grippe et que vous êtes empêché d'aller voir votre famille à qui vous tenez, d'aller voir vos amours, vos amis, etc., vous vous dites « Oh là là, c'est quand même pas de chance ». Sénèque vous dit « Pas du tout ». Au contraire, c'est une nouvelle variante de la chance qui vous est donnée de montrer votre vertu, c'est-à-dire d'être quelqu'un de bien, et au moment où vous faites l'expérience que vous êtes quelqu'un de bien, de vous en réjouir. Plus on reste concentré sur cet aspect-là de la vie, c'est-à-dire la capacité qu'a chaque être humain à s'apporter de la satisfaction, indépendamment des aléas de la vie, indépendamment de l'état du corps, vous avez mal, mais vous vous comportez bien. On vous torture, mais vous ne dénoncez pas vos amis. Vous admirez un coucher de soleil avec une personne que vous aimez, mais vous n'oubliez pas que la vie est faite d'aléas et vous ne préparez donc pas des malheurs futurs. Juste, vous accueillez ce qui vient avec grâce et vous le laissez partir avec la même grâce. Cette posture-là est ce qui définit la posture justement d'invincibilité. Donc la chose importante à retenir, c'est qu'au fond, nous ne sommes pas dans une posture face à la vie qui consiste à être en permanence agressé et à devoir répondre à cette agression. C'est justement cette approche-là qui va vous rendre la vie difficile. L'idée, c'est au contraire de dire tout ce qui nous arrive en fait, est une occasion d'être nourri dans ce que nous avons de meilleur. Et ce bien-là nous est donné, pas seulement de l'extérieur, pas seulement de l'intérieur, mais dans une rencontre où quelque chose va croître. Et ce quelque chose s'appelle la nature. La nature, ça pousse. Et donc, ça pousse à mesure qu'on la nourrit de toutes sortes d'événements. Et donc, comprendre que ce qu'il y a de meilleur en nous se construit aussi bien à partir des épreuves qu'à partir des grands moments de bonheur. Aussi, et ben du coup, ça transforme la différence entre les bonheurs et les malheurs, disons, en des types d'occasions de se montrer quelqu'un de bien, et donc on arrive à une forme tout à fait curieuse, nouvelle, de bonheur. Un bonheur qui ne dépend plus de l'alternance entre joie et tristesse, un bonheur qui consiste à dire, à tout moment de ma vie, je vais toujours me demander quelle est l'attitude qui va me permettre de me sentir satisfait ou satisfaite de moi-même. Et lorsque vous le faites, alors c'est marrant parce que moi, ça m'est arrivé pendant le Covid, c'est-à-dire au moment où j'ai eu le Covid et où vraiment, vous savez, la fièvre vous fait tourner la tête. Et au lieu de se dire, oh, quelle saloperie, oh, j'ai l'air d'être que ce soit fini, oh là là, j'en peux plus, de se dire, waouh, quelle drôle d'expérience, waouh, détends. Eh ben, alors, et donc de pas avoir peur, de pas, comment dirais-je, refuser l'expérience, mais plutôt observer, enfin trouver une, j'ai pas d'autre image que celle de la posture, trouver la posture qui permet de naviguer l'épreuve de manière, pardon, c'est bizarre, mais à la savourer, c'est-à-dire à se savourer en train de vivre. Parce que quand même, c'est ça qui est le fondement, le socle de ce bonheur-là. C'est en fait apprendre à savourer l'existence. Sénèque dit, apprends à trouver ta joie là où il le faut.
C'est-à-dire que c'est ce que vous dites, c'est que finalement, et c'est là où ça s'articule avec là aussi la question entre guillemets de l'invisibilité, qui est que en faisant de la fortune une épreuve, on fait l'expérience de sa liberté. C'est-à-dire qu'en fait, comme vous le dites là dans le cas du Covid, c'est-à-dire qu'une épreuve, là, quelque chose ne va pas bien, je me dis, mais en fait, c'est une épreuve. Et face à cette épreuve, le fait de changer la façon dont je regarde ce qui m'arrive me permet librement, si ce n'est d'en jouir, au moins d'en moins souffrir.
Bah, de jouir de la liberté que je peux déployer à l'occasion de cette épreuve. C'est-à-dire, quand il nous arrive des épreuves, l'attitude la plus commune, c'est de les vivre comme des injustices. Oh non, j'ai pas mérité ça, pourquoi ça m'arrive à moi? Et donc, une autre attitude consiste à dire, là, il va falloir trouver une attitude adéquate. Et cette attitude adéquate, c'est là que se joue la liberté. la liberté consiste à chercher. C'est le moment où vous cherchez comment réagir. Et le bonheur, c'est le moment où vous vous dites « j'ai fait de mon mieux ». Ça ne veut pas dire que vous allez trouver une position parfaite qui vous permet justement de vous dire « ah oui, Maxime avait raison, finalement c'est facile ». C'est plutôt de dire « en fait là, je suis sûr que ce que je fais, c'est ce que je peux faire de mieux. Et quand vous vous retournez dans le passé, j'ai fait de mon mieux ». C'est très intéressant parce que au fond, on s'aperçoit que là où la notion d'injustice nous met dans une posture de victime, c'est-à-dire « oh non, il m'arrive un accident, j'en suis victime », et entre parenthèses, si vous êtes victime, ça veut dire que quelque chose d'autre est actif, sur quoi vous n'avez pas prise. Autrement dit, vous vous êtes retiré votre propre liberté. Vous avez déplacé votre liberté vers la chose qui vous fait souffrir ou la personne qui vous fait souffrir. Et l'attitude inverse consiste à dire « ah, il m'arrive une tuile, ça n'entrave pas ma liberté, au contraire, ça la sollicite, au contraire, ça la nourrit, et je vais donc m'en nourrir. Je vais donc accueillir l'épreuve qui m'arrive pour justement essayer d'exprimer le meilleur de moi-même. » Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que ça permet de penser sa propre évolution d'une manière paradoxale. Alors, c'est un peu bizarre, mais je vais essayer de m'exprimer correctement. C'est que à la fois, vous pouvez être satisfait ou satisfaite de vous-même à tout instant, parce que vous savez que vous faites du mieux que vous pouvez, et en même temps, vous vous orientez quand même dynamiquement vers une version où vous ferez encore mieux. Donc, c'est très intéressant parce que ce n'est pas culpabilisant. On ne vous dit pas toujours « faites mieux, vous pouvez mieux faire, c'est vous qui vous rendez malheureux ou malheureuse, etc. » qui sont les versions un peu développement personnel du stoïcisme. Si vous regardez la manière dont les gens du développement personnel utilisent le stoïcisme, souvent c'est très fragile parce que en fait ils vous disent bah finalement c'est vous qui vous rendez malheureux. Alors bah merci. Donc maintenant non seulement j'ai des épreuves dans la vie, mais en plus c'est ma faute. Donc c'est quand même un peu embarrassant. Chez Sénèque, il y a quelque chose de beaucoup plus généreux, beaucoup plus souple, qui consiste à dire mettez-vous dans la posture de faire de votre mieux, profitez de cette conscience-là pour savourer ce que vous êtes, laissez à l'extérieur ce qui vous gêne, continuez de lutter sur ce double plan, à la fois contre les choses extérieures pour les façonner selon vos désirs, et contre vous-même pour continuer d'évoluer. C'est un peu bizarre là, mais peut-être que dans le livre, c'est mieux expliqué.
Non, c'est très clair, mais simplement... Alors, on reviendra après sur la question des différents niveaux entre le meilleur et puis l'hypothèse, avec la question de l'exemplarité, qui, je pense, permet de bien illustrer ça sur l'éthique du possible et de l'impossible. Mais peut-être en amont de cela, parce que c'est l'un des éléments initiaux de la réflexion, c'est comme aussi le rapport à l'opinion. C'est-à-dire que le premier... Enfin, à l'opinion... Tel qu'est le mot latin dans le texte de Sénèque, c'est-à-dire que le premier mouvement que fait quand même à la fois le lecteur et puis le premier pas philosophique, c'est quand même de se décaler par rapport à un certain nombre d'idées, ce que vous appelez, vous, le brouillard des opinions, qui fait qu'en fait, on est en permanence obscurci du rapport qu'on a à sa propre vie. Et justement, le premier décentrement, il est vraisemblablement là.
C'est ça. C'est-à-dire que l'opinion, c'est le principe du conformisme. Et en fait, on ne s'en aperçoit pas. Mais la plupart de nos malheurs, disons, cette impression d'être l'objet de plein d'injustices dont on est victime, ça naît principalement du fait qu'on compare notre vie à celle des autres ou à une vie idéale que personne ne vit et qu'on se dit, bah, moi, j'ai pas ça. Alors moi, je suis malade et puis mon voisin, ma voisine, ils sont pas malades, c'est pas juste. Ou moi, j'ai pas ça, etc. Et en fait, la proposition stoïcienne consiste à dire méfiez-vous, parce que ces opinions vous arrachent à vous-même en permanence et surtout vous arrachent à votre vraie vie, à la réalité de ce qui se passe. Et ce qui se passe, en fait, est beaucoup moins grave que vous imaginez. Et vous l'avez compris, on parle, enfin, les gens qui parlent, en l'occurrence Sénèque, sont l'objet de choses très graves. Ça veut dire, ils ont leurs amis qui sont arrêtés, torturés, massacrés. Sénèque, il va perdre toute sa famille. Toute la famille est décimée par Néron. Hein. C'est pas que Sénèque. Hein. C'est aussi son frère aîné, puis c'est son frère cadet, puis c'est Lucain, son neveu. Et donc, toute la famille là, autour de Sénèque va être massacré. Donc on parle de gens qui sont soumis à des tragédies qui sont d'une très grande intensité. Et c'est pourtant ces gens-là qui vous disent, vous savez, il n'y a pas vraiment de choses graves dans la vie, et surtout pas la mort. C'est pas très important, même pas la douleur. Pourquoi c'est pas important? Parce que vous croyez que c'est grave par contraste avec une vie à laquelle vous comparez la vôtre. Et vous vous dites, oh, quand même, c'est pas chouette l'expérience que je vis. Or, vraiment, le détachement de l'opinion, ça consiste à dire, en fait, là, il y a trop de représentations qui me viennent de l'extérieur. Je répète des choses sans y penser et sans être vraiment attentif à ce qui se passe. Alors, ce qui est très fort, c'est que Sénèque va attirer notre attention sur des opinions qui paraissent difficiles à remettre en question. Par exemple, la douleur n'est pas un mal. Là, c'est difficile à accepter. La mort n'est pas un mal. On voudrait bien qu'on nous le démontre. Alors, il va justement, comme c'est difficile aussi pour lui, c'est ça que j'ai aimé aussi dans les lettres à Lucilius, c'est que il va falloir le démontrer une fois. Et puis ensuite, il va falloir en parler à partir d'images. Et puis après, il va falloir prendre une autre image. Et puis, il y a des lettres où vous allez voir Sénèque conclure. Ah, voilà, Lucilius, je peux mourir, je suis satisfait. Ouais, sauf que 15 jours plus tard, il reprend la question de, bon, alors la peur de la mort, parlons-en. Et donc, on sent bien que ça revient, en fait. Et puis, avec une grande patience, Sénèque y retourne. Donc, cette question de l'opinion, on s'imagine qu'une opinion... Et on entend ça sur les réseaux. On s'imagine qu'une opinion, on peut l'arracher d'un coup. C'est-à-dire, vous n'avez qu'à vérifier. Et puis voilà, vous allez vous apercevoir que c'est faux. Et du coup, vous allez changer d'avis. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Changer d'avis, c'est très coûteux. Si on a un avis, c'est donc qu'il y a tout un entrelacs d'émotions, de rapports de loyauté aussi, les uns envers les autres, etc., qui fait qu'on est attaché à une opinion. Et donc, tout le travail de la philosophie, c'est justement de défaire cet entre-là pour nous libérer. Et nous libérer des opinions, ça ne veut pas dire nous affilier à une école philosophique. Ça veut dire au contraire nous permettre d'accueillir les événements de la vie d'une manière plus vierge, en fait, plus accueillante, en essayant, comme je le disais tout à l'heure, d'improviser des réponses. Pas des réactions qui seraient mécaniques, mais des réponses où on reformule en fait des attitudes possibles pour, comme je le disais, trouver notre propre satisfaction.
Donc en fait, ce qui fait, dans ce que vous dites, l'une des singularités de la pensée de Sénèque, c'est qu'elle a une dimension extrêmement relationnelle, au sens où on n'est pas dans la mise en œuvre d'un dogme spécifique qu'on viendrait plaquer sur le réel, mais c'est dans l'articulation de notre vie, de l'ensemble des relations qu'on a de nous à nous-mêmes et de nous à l'extérieur du monde, qu'on se retrouve à trouver les dispositions pour agir de façon adéquate. Et ce qui fait qu'il y a toujours une question quand même qui se pose sans arrêt sur ce type de philosophie, qui est quelle est la pierre de touche ? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une sorte de norme interne ou externe à cette philosophie qui va dire, là, ce que tu fais est bien ou ce que tu fais n'est pas bien ? Et qui est aussi l'obsession, parce que, on l'évoquait tout à l'heure un petit peu, l'une des difficultés avec Sénèque, c'est qu'il a été extrêmement christianisé. C'est-à-dire qu'il a été réemployé par les pères de l'Église et puis par toute une tradition philosophique chrétienne qui en a fait quelque chose d'extrêmement chrétien. Donc, ce qui fait qu'il y a aussi un sentiment de familiarité. Vous parlez d'épreuves, vous parlez de dire la douleur, ce n'est pas grave, la mort, ce n'est pas grave. On sait très bien comment ces phrases-là, on pourrait l'interpréter d'un point de vue chrétien. Vous revenez à ce que dit Sénèque, mais se pose quand même la question de savoir, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui permet d'évaluer la valeur de notre vie ?
Non. C'est ça qui est merveilleux, c'est le courage de se jeter dans la vie en toute ignorance, en ignorance de soi. C'est-à-dire que contre l'idée que, oui, il faut revenir à soi-même, il faut se connaître soi-même, on va rentrer dans de l'introspection et réfléchir à nos propres, etc. Sénèque dit, de manière très spectaculaire, ne rentre pas en toi-même, tu es trop près d'un vaurien. Là, tu seras en mauvaise compagnie. Laisse tomber, ne rentre pas à l'intérieur parce qu'il n'y a pas de sage dedans. Si tu veux devenir plus sage, c'est pas dedans qu'il faut aller. Bon, alors tu vas où ? Parce que dehors, on ne trouve pas non plus de certitude sur ce que c'est que le vrai bien. Donc, la grande difficulté, c'est pour nous qui venons donc d'une société judéo-chrétienne qui a construit une certaine forme d'intériorité, Et puis avec Saint-Augustin, cette idée que, au fond, à l'intérieur de nous se trouve quelque chose de caché qui est notre propre divinité, eh ben, enfin, ou notre propre, disons, rapport à Dieu, plus exactement, chez Sénèque, qui est vraiment profondément un païen, qui connaît très mal le christianisme, qui pour lui c'est une secte apocalyptique assez minoritaire. Chez Sénèque, on va avoir une toute autre approche de ce que c'est que le sujet. Et donc du coup, il va falloir se rapporter au bien sur le mode d'un pari, c'est-à-dire en toute ignorance de soi et de ce que c'est que le bien. C'est pour ça que j'insistais tout à l'heure sur ce que c'est que le mieux, faire de son mieux. En fait, si vous cherchez ce qu'est le principe du bien, bah, vous allez être confronté à des difficultés métaphysiques un peu inextricables. Si en revanche, dans une situation très concrète, vous cherchez à faire de votre mieux, bah, vous allez voir que c'est un petit peu moins compliqué. Je ne dis pas que c'est difficile, mais par contre, c'est beaucoup moins intellectualisé et c'est beaucoup plus pratique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est l'aspect pratique de cette philosophie qui peut se passer de principes, y compris d'un principe individuel d'action, pour penser ce que c'est que la vertu. Si vous y pensez, c'est dingue. Parce qu'en réalité, pour nous, la vertu, ça s'attribue à un sujet. C'est-à-dire que il faut toujours qu'il y ait quelqu'un de vertueux. Je veux dire, si on vous dit des choses intéressantes là ce soir, c'est parce que Pierre pose de bonnes questions et que moi je fais de bonnes réponses. Alors vous dites, il est intéressant ce Pierre, il a bien lu le texte, il pose des bonnes questions. Et donc vous lui attribuez de l'intelligence, par exemple. Et puis, je sais pas, et c'est la sienne, d'accord ? Il la possède comme un propriétaire terrien possède sa terre. Et puis, je sais pas, on va faire comme ça, s'attribuer des qualités les uns aux autres. Or, la vertu, chez les Sénèques, ça se passe pas du tout comme ça. La vertu, c'est une forme de bien qui circule entre les êtres à travers leurs échanges. Donc, s'il se dit quelque chose d'intéressant, là, pendant qu'on est en train de parler, c'est une erreur de l'attribuer exclusivement à Pierre ou à moi, d'autant qu'entre nous soit dit, ce que vous trouvez intéressant, c'est ce que nous, en parlant, on vous fait penser à vous. Donc, et c'est vous que vous trouvez intéressant quand vous nous écoutez. Et là, il y a quelque chose de très curieux qui se déplace. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que donc, non seulement la vertu circule, elle n'a plus besoin d'être attribuée. Du coup, la question du bien change, elle n'a plus besoin d'avoir un principe, un socle fondamental pour s'appuyer, ben, vous verrez bien. Vous verrez comment vous allez trouver le bien dans une situation quelconque. Ce n'est pas une mauvaise idée de bien vous entourer, c'est-à-dire de vous entourer de personnes que vous admirez et de laisser s'éloigner les personnes que vous n'admirez pas. Parce que justement, c'est en ayant un groupe d'amis qui vous tire vers le haut que justement vous-même vous allez vous transformer progressivement. Là, il y a quelque chose de très intéressant dans la manière dont se conçoit la politique, par exemple. Parce que du coup, la politique, ça va être une manière de faire circuler la vertu dans toute une société. Et où on va se sentir tous en lien, justement, pas parce que chacun est dans son coin, mais parce qu'on sait que la vertu, ça circule. Hein. Et donc, on arrive à une conception des choses où ça n'importe pas, en fait, que ce soit moi qui agisse ou que ce soit Pierre, par exemple. C'est pas important, ça. Ce qui est important, c'est que quelque chose d'intéressant soit dit ce soir. Si c'est lui ou si c'est moi, en fait, on s'en fiche. Parce qu'on sait que ça, en fait, ça circule. Et en plus, l'important, c'est que vous le rameniez à la maison, quoi. Donc, c'est pour ça qu'on est venu. Et ça, il y a quelque chose de très curieux, parce que j'ai découvert, chemin faisant, que c'est ce qu'on appelait, pardon, je suis en train d'anticiper peut-être une de vos questions. C'est ce que finalement les Romains considèrent comme exemplaire. Ah ! Alors, c'est bizarre, parce que pour nous, être exemplaire, c'est incarner un certain modèle. Ça veut dire, on va regarder Pierre, on va se dire, il est exemplaire ce mec, parce qu'il est... Non, il est exemplaire, parce qu'il est comme ça, il est très intelligent, et puis en même temps, il a la générosité de laisser l'autre parler, il est vraiment... Et donc, vous vous dites, c'est une image du bien. Et donc... Bon, ben, je prends exemple, et puis, la prochaine fois que je parle avec quelqu'un, j'essaierai de faire pareil. En fait, c'est pas vraiment comme ça que ça se produit. c'est plutôt que comme le bien ne s'attribue pas à un individu, que c'est quelque chose qui circule, eh bien du coup, plus quelqu'un le manifeste, plus la chose le traverse et gagne les autres et donne envie aux autres d'en faire autant. Mais en faire autant, bah, ce ne sera pas trop possible parce que avant de vous retrouver sur ce fauteuil, bah, il faudrait réunir beaucoup de conditions. Donc, ce qui est très intéressant, et vous l'avez anticipé tout à l'heure, donc je vais rentrer dans cette réflexion, c'est qu'en fait, ce ne sera pas possible d'imiter le modèle. C'est parce que c'est impossible d'imiter le modèle que vous allez inventer de nouvelles manières d'être des gens bien. C'est à vous de l'inventer, hein. Vous ne pouvez pas le retirer du modèle. C'est ça qui est génial dans cette conception, c'est que le modèle n'est pas fait pour être imité. Le modèle est fait pour être inspirant. C'est pas la même chose.
Oui, alors, et pour ça, il y a deux exemples sur lesquels vous revenez qui sont extrêmement importants, qui sont Stilpon et Mucius, qui sont deux histoires exemplaires sur lesquelles vous reviendrez et qui, dans leur absolu, sont effectivement des modèles impossibles. Mais ils ne sont pas. Le problème, c'est pas qu'ils soient impossibles, c'est qu'ils ne sont modèles que parce qu'ils sont impossibles et que parce qu'ils induisent un possible échec chez nous. Et c'est parce que nous allons échouer à être ce qu'ils ont été qu'on va construire quelque chose qui nous sera propre.
C'est ça. C'est deux exemples qui sont connus de tous les Romains parce qu'on les apprend à l'école primaire. C'est vraiment ce qu'on raconte aux tout petits. On raconte que pendant la guerre contre les Étrusques, donc c'est vraiment dans les débuts de Rome, c'est en 509 avant Jésus-Christ, il y a un soldat qui s'appelle Mucius Scaevola et qui s'introduit, sans qu'on lui ait demandé, un soldat romain, qui s'introduit dans le camp des Étrusques pour aller tuer lui-même le roi Porsena. Et puis, ça ne marche pas. Il est pris, il est fait prisonnier et on l'amène devant le roi alors qu'il y a un brasier devant eux. Et en fait, Mucius, comme il a échoué dans son projet, prend des braises dans les mains et met sa main au feu. C'est ce qui a donné l'expression « mettre sa main au feu ». Et Mucius est connu et donné comme un exemple de vertu pour avoir montré au roi ennemi à quel point, en fait, il n'avait pas peur de la douleur et il avait le courage de dire « ma main a échoué à te tuer, n'essaye pas de me torturer pour me faire avouer quoi que ce soit, je suis capable de prendre des braises dans ma main de ma propre volonté ». Sénèque raconte cette histoire plusieurs fois parce que c'est un peu un morceau de bravoure de la raconter. Et vous comprenez bien que ce n'est pas un modèle à imiter. Enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ça va, vous avez passé un mauvais quart d'heure. L'idée, c'est plutôt que c'est un modèle inspirant, c'est-à-dire toutes les fois où vous aurez quelque chose dont vous vous dites c'est insupportable, pensez à Mucius. Et vous verrez que, bon, votre belle-sœur, elle est insupportable, mais bon, c'est pas comme si vous aviez des braises dans la main, quoi. Et ça va vous aider quand même à relativiser. Et de la même manière, l'autre exemple, c'est Stilpon, alors que moi, j'utilise beaucoup, mais un peu malgré moi, parce que ça m'a marqué. Stilpon est un philosophe d'une école qui a disparu assez rapidement, qui s'appelait les Mégariques, et donc issu d'une ville qui s'appelle Mégare. Et donc, Mégare est mise à sac par les Macédoniens. Et donc Stilpon, qui était un philosophe réputé, qui avait sa bibliothèque, sa femme, ses enfants, sa maison, voit tout ça brûler. Donc les enfants sont massacrés, la femme est violée et assassinée, et Stilpon ressort bizarrement indemne de cette tragédie. Et il est tout calme, et il passe devant Polyeurce et Thès, qui est le vainqueur de la ville, qui est étonné de son attitude calme. Et en fait, Stilpon, donc il lui demande comment se fait-il que, alors que tu viens de tout perdre, tu sois aussi tranquille. Et Stilpon lui répond, tous mes biens sont avec moi. Sénèque est fou d'admiration pour ce type parce que, évidemment, tous mes biens sont avec moi, ça signifie, en fait, je n'ai qu'un seul bien, c'est la vertu. Et la vertu, on ne peut pas me la prendre. Donc, quelle que soit l'ampleur de l'épreuve à laquelle je suis soumis, eh bien, en fait, je suis soumis à rien du tout. Et même le vainqueur, je peux surmonter, en fait, sa victoire, en fait, parce que ma liberté n'est pas atteinte. Alors, moi, s'il m'arrivait la même chose, je crois que je pleurerais beaucoup. Je crois que je serais très abattu. Et Sénèque est justement le philosophe qui va vous dire, il y a un temps pour pleurer. l'histoire de Stilpon, lui, il y croit qu'à moitié. En revanche, Stilpon en tant que modèle, il y croit fort. Pourquoi ? Pour la raison qu'on a évoquée à l'instant, c'est que comme c'est un modèle impossible à imiter, en fait, il devient inspirant dans les circonstances où il va vous revenir en tête sans que vous le vouliez. Et moi, par exemple, quand j'ai un train à prendre et que je laisse ma bien-aimée à Paris pour venir à Bordeaux, et que je me dis « Oh, j'aurais bien aimé rester ben », je me dis « Tous mes biens sont avec moi ». Et là, ça me console un peu. Ça me rappelle un peu, et c'est ce que fait en fait la lecture des lettres à Eusebius, c'est ce qu'on a aimé, nous, quand on les a lues l'un pour l'autre, c'est que ça nous rappelle à une certaine noblesse de cœur, à la possibilité d'une attitude qui est une attitude noble, élevée, élégante. Et vous savez, dans une société qui est la nôtre, qui est facilement infériorisante, où on nous fait facilement ressentir nos faiblesses, où on est tous enclins à se dire « Ah, j'y arrive pas », notamment parce qu'on nous demande des choses trop difficiles, où on plie en fait, et puis on se dit « Non, mais c'est pas pour moi, parce que quand même c'est de la philosophie, c'est quand même trop compliqué. » Ou alors oh, « Les lettres à Lucilius, moi je veux bien, mais c'est très gros quand même, je peux pas lire un livre aussi volumineux. » Et on n'arrête pas de se dire « J'y arriverai pas, c'est pas pour moi. » Eh ben, une lettre, n'importe laquelle des lettres, vous réveille comme d'un rêve, et vous rappelle que « Non, mais enfin, je veux dire, tiens-toi droit. C'est bon. Soit un homme, soit une femme, soit quelqu'un de bien. Soit... » Et ça, c'est pas sur le mode d'une injonction. Comme je disais, c'est sur le mode d'un réveil. C'est-à-dire, mais ouais, au fait, je vais y faire face, en fait, à cette vie, à cette épreuve. Et y compris dans la... Parce que là, j'ai beaucoup parlé d'épreuves et de souffrances et tout, mais c'est aussi une nouvelle pensée de la joie. Beaucoup plus que Spinoza, d'ailleurs, à qui on attribue une pensée de la joie. En fait, tout ce que dit Spinoza, il l'a pompé dans Sénèque. D'ailleurs, il ne s'en cache pas, hein, au début de la cinquième partie de l'éthique, il indique qu'il doit beaucoup à ses prédécesseurs, et je peux vous dire, pour avoir traduit du latin les deux ouvrages, que j'ai reconnu énormément de membres de phrases que je connais de l'éthique, et qui en fait viennent des lettres à Lucilius. Et donc, il y a aussi une manière de répondre dignement à des situations de joie ou de plaisir, et qui est justement de ne pas considérer le plaisir comme étant une expérience singulière ou individuelle. C'est mon petit plaisir à moi. Mais arrêtez avec vos petits plaisirs. Vivez des grands plaisirs. Mais vivez des grands plaisirs qui vous ouvrent alors, qui vous ouvrent, comment dirais-je, qui vous comblent de gratitude, qui vous donne envie que tout le monde les vive, qui vous donne envie d'être généreux envers les autres, qui vous donne envie de venir en aide à tout le monde, qui vous donne envie de remercier, quoi, remercier tous ceux qui ont participé au fait que telle nourriture arrive jusqu'entre vos mains, à tous ceux qui ont rendu possible tel ou tel moment. C'est ça, à nouveau, c'est une manière d'élever le cœur humain, qui est vraiment centrale en philosophie. Et chez Sénèque, il y a cette volonté, justement, de faire en sorte que tout nous élève. Ce qui nous afflige nous élève quand même, et ce qui nous réjouit à nouveau nous élève. C'est quand même merveilleux.
Et justement, effectivement, vous l'avez évoqué à deux reprises, au cœur de cette idée-là, il y a la question du cœur. Et la question du cœur, c'est une question un peu compliquée, parce que d'abord, faut l'évoquer aussi, comme vous venez d'en parler entre Spinoza et Sénèque, mais il y a un certain nombre de problèmes de traduction qui se posent, comme pour toute traduction, et particulièrement sur des philosophes extrêmement traduits comme Sénèque, et la question de mens, de animum, etc., de tous ces éléments-là, de tous ces mots qui souvent on a par habitude traduits soit par esprit, soit par âme ou autre. En fait, vous dites, il y a une notion quand même, cette notion de cœur chez Sénèque, elle est très importante, parce qu'on y reviendra au moment de la question de la mort. Elle fait partie, comme la vertu, de ces choses qui dépassent l'individu. C'est ça. Qui lui survivent, entre guillemets. Alors, si on dit ça, survit, tout de suite, on pense chrétien, là aussi. Mais il y a quelque chose qui est quand même plus grand que l'individu dans le cœur et dans la vertu. Et pourtant, les deux sont évidemment liés, cœur et vertu, mais ne se recouvrent pas.
Sur la question du cœur, je suis à la fois très affligé et très excité. Je suis très affligé parce que, en fait, depuis qu'on traduit le latin en français, on a cherché à masquer l'existence de quelque chose que clairement on aurait dû traduire par cœur. C'est-à-dire que l'objet même de la philosophie, c'est le cœur. Ça veut dire on passe par la tête, on réfléchit avec quelque chose qu'en général on appelle intellectus, c'est-à-dire l'intellect, et parfois en effet mens, qui est l'esprit. Mais cette manière de conceptualiser, c'est quand même fait pour qu'à un moment, ça percole, si je puis dire, ça descende, et qu'à un moment, ça touche le siège des émotions. Et le siège des émotions a ceci de particulier qu'il est attentif à plusieurs choses à la fois, c'est-à-dire qu'il répond à ce que lui dit la tête, il répond aussi à ce que lui dit le corps, et il répond aussi à cette fameuse opinion dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire à ce que disent les autres. Donc, il est un peu fragile, le cœur, parce qu'il est ouvert aux quatre vents, à toutes sortes d'influences. Et le travail philosophique consiste à faire en sorte que les concepts puissent parler au cœur et l'orienter, justement pour l'empêcher de suivre trop aveuglément les opinions des autres, pour l'empêcher de suivre trop aveuglément les caprices du corps, qui est un bel animal, mais c'est un peu comme les chevaux qui, vous savez, vous tirent sur le côté parce qu'ils ont envie de brouter l'herbe. Et non, on leur veut du bien, si vous voulez, à ces montures, mais quand même, elles ont besoin qu'on les dresse d'une certaine manière, mais dans leur intérêt. Et donc, le cœur, c'est cette espèce de centrale de transmission où, en réalité, se joue l'ensemble du projet philosophique. Et donc, je suis affligé parce que plus je traduis des textes du latin, plus je m'aperçois qu'une certaine évolution de l'histoire de la philosophie ou de la philosophie telle qu'on l'a fait, en particulier à l'université, a conduit à surintellectualiser la philosophie. Bon, en réalité, ça se joue à l'orée du XVIIe siècle et après, ça devient de plus en plus marqué à mesure que la philosophie s'institutionnalise. Elle va devoir justifier de son sérieux en évacuant la question du cœur et en se posant comme une science, et ça va devenir à la fin du 19e siècle très marqué, puisqu'elle va s'assumer comme une science humaine, ce qui est vraiment stratégiquement une bonne idée parce que ça va permettre à la philosophie de rentrer, enfin de ne pas perdre sa place à l'université, mais en même temps, ça va tendre à lui donner l'aspect d'une science, alors que c'est d'abord une pratique intellectuelle dont la visée, quand il s'agit d'éthique, est de transformer le cœur. Alors c'est très intéressant parce que refaire de la philosophie avec le cœur, ça signifie qu'on va cesser d'attribuer la raison seulement à la tête, à l'esprit, à la mens ou à l'intellectus. Raisonner avec le cœur, ça signifie être en prise avec ce qu'on ressent vraiment. Et ça veut dire aussi, c'est très intéressant, laisser parler ce qu'on ressent vraiment. Parce que, bien sûr, quand on se dit « Ah oui, il fait de la philosophie », ça veut dire « Il va essayer d'avoir un discours rationnel ». On s'imagine que c'est la raison qui va parler. Et ce que Sénèque et les stoïciens nous apprennent, c'est que la raison, ce qu'elle doit faire, si elle veut être efficace, c'est écouter. Et c'est pour ça que l'adresse à la seconde personne, le fait de se parler à la seconde personne, qu'est-ce que tu veux, Maxime? Qu'est-ce qui te fait peur? Qu'est-ce que tu penses de ça? C'est une manière, en fait, pour la raison, de laisser remonter à la parole des sentiments, des émotions, des perceptions, des souvenirs, des sensations du corps aussi. Le corps n'est pas doué de parole. Mais par contre, c'est une force, en fait. C'est une puissance. Donc, il a des choses à dire. Et donc, le travail rationnel tel qu'on le découvre avec Sénèque, c'est un travail de mise en voix. Il faut réussir à faire parler tout ce qui en nous essaye de parler. Et c'est très fort parce que, au fond, par exemple, quand on est contrarié d'être malade, au fond, tout au fond de cette contrariété, il y a quand même la peur de mourir. Alors, si on arrive à faire remonter cette peur de mourir, à dire « Non, mais en fait, j'ai peur, là. J'ai peur parce que ça me fait perdre du temps. Mais pourquoi tu as peur de perdre du temps ? Mais parce que j'ai peu de temps à vivre. Mais pourquoi tu crois que tu as peu de temps à vivre ? Parce qu'après, je meurs. Bon, d'accord, mais pourquoi est-ce que tu penses que la mort, c'est une fin ? Quand même, c'est une fin, non ? D'accord, mais alors pourquoi est-ce que tu trouves que la fin, c'est un mal ? Parce qu'après, il n'y a rien. Mais tu ne crois pas que la fin, c'est ce qui rend une chose parfaite ? que tant qu'une chose est indéfinie, elle manque de contours. Tu ne crois pas que quelque chose de parfait, comme le mot l'indique, c'est quelque chose qu'on a fait jusqu'au bout? Tu ne crois pas que la mort, au lieu de marquer ta finitude, c'est-à-dire une borne qu'on t'impose après laquelle tu n'as plus le droit d'aller, ça pourrait être au contraire ce qui te permet d'être un être parfait, ça veut dire qui achève les choses, qui complète les choses et qui est capable d'aimer conclure. Ça veut dire qui ne tire pas indéfiniment, je ne sais pas si c'est l'expérience de certains d'entre vous, son projet de thèse à travers toute la vie en se disant « un jour, je finirai ma thèse de philo ». Bah non, à un moment, tu fais ta thèse et puis tu mets un point final et c'est fini. De la même manière, je sais pas, vous avez des projets et puis vous vous lancez dans le projet et puis à un moment, il faut que le projet il aboutisse. Et puis une fois qu'il a abouti, le projet il est fini. Alors, quand on parle de la finitude, est-ce qu'on doit se lamenter en se disant « mais quand même, nous les êtres humains, nous sommes petits et faibles car nous sommes finis ?» Ce qui est vraiment un raisonnement dont la matrice est judéo-chrétienne parce qu'elle suppose la positivité de l'infini, c'est-à-dire ce serait mieux d'être infini que fini. Ou est-ce qu'on est capable d'embrasser la pensée grecque et romaine selon laquelle, en fait, il n'y a de parfait qu'une chose, de parfaite qu'une chose finie, même les dieux sont finis, ça veut dire qu'ils ont des limites, ils ont une définition. Et de la même manière, eh ben en fait, on n'est pas de pauvres êtres humains qui un jour allons, disons, être confrontés à notre finitude. Au contraire, nous sommes de merveilleux représentants de la nature en train de parcourir d'une manière très spectaculaire ces cycles. Et l'un des cycles dans lesquels nous sommes pris, c'est celui de la génération. Nous sommes nés de parents, nous grandissons, nous vieillissons et ensuite nous passons le relais à la génération suivante. Ressentir ce que nous appelons trop souvent notre finitude comme étant notre capacité de réintégration dans des cycles plus grands que nous, c'est vraiment une toute autre manière d'aborder le vieillissement et la mort.
L'infini du fini, c'est effectivement c'est le cycle, c'est la spirale, contrairement à la ligne droite qui va de façon non pas infinie, mais finalement indéfinie, d'un point vers un autre et qui, elle, effectivement, est celle dans laquelle on est là, même en termes d'expansion tierce. Alors, malheureusement, on ne va pas pouvoir évoquer l'ensemble des richesses que nous propose à la fois votre livre et Sénèque. Peut-être, pour conclure par là, par où vous avez commencé, cette question de la mort comme instrument de retournement, justement, de la perspective sur notre vie. Dans le chapitre que vous consacrez à cette question-là, il y a une dimension très importante qui est que vous dites que le principal retournement que produit Sénèque, finalement, c'est de nous faire comprendre que le suicide peut avoir un sens si on comprend que dans sous certaines conditions, on est peut-être déjà mort. Et que finalement, ça nous paraît comme un drame ou un problème dans le cadre d'une vie qui semble parfaitement s'accomplir et s'épanouir. Mais finalement, toutes les vies ne se valent pas. Et il y a peut-être des choses qui ne fonctionnent pas. Il y a des vies où on pense qu'on est vivant et en fait, on n'est pas vivant. Et ce retournement de perspective, il nous permet aussi de nous dire bah, peut-être que là, je me pense vivant alors qu'en fait, je ne le suis pas. Et qu'est-ce que je peux faire pour être à nouveau vivant?
Ouais, c'est compliqué. Hein, moi, je comprends parce que je sais d'où ça vient. Mais vous avez dû morfler là. L'une des choses qui a le plus embarrassé les chrétiens avec Sénèque, c'est son apologie du suicide, parce qu'ils n'ont pas vraiment compris. Ils ont cru que Sénèque, comme beaucoup de stoïciens quand même, faisait l'éloge du suicide et autorisait le suicide comme un geste philosophique, au fond, tout à fait acceptable. Et d'ailleurs, c'est le signe de notre liberté. Après tout, si la vie ne vous plaît pas, ben vous n'avez qu'à en sortir. En réalité, ce que dit Sénèque est un petit peu plus compliqué. En réalité, si vous avez bien compris ce que j'ai dit tout à l'heure sur un certain rapport au fini et la possibilité pour nous d'aimer conclure, d'accepter qu'une belle chose, une chose parfaite, c'est une chose qui a une conclusion, eh bien en fait, vous allez vous apercevoir que bien vivre, c'est aussi accepter d'aller vers la mort. Ça veut dire bien vivre, c'est pas juste se dire qu'est-ce que c'est chouette la vie, dommage que ça se termine. Parce que là, vous avez vraiment pas compris comment ça marche. Vivre, c'est à chaque fois se rapprocher un peu plus de la mort et à chaque fois quelque chose meurt. Et chaque jour, quelque chose meurt, qui est le jour en question. Donc, la posture de Sénèque consiste à dire accepter de vivre, c'est mourir volontairement. Oui, mais la mort volontaire, c'est d'habitude l'expression qu'on emploie pour le suicide. Donc, finalement, le conseil de Sénèque, c'est un peu comme la chanson de Brassens, « Mourir pour des idées, d'accord, mais de mort lente ». Eh bien, Sénèque vous dit « Suicidez-vous maintenant, mais lentement ». Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, en sortant d'ici, vous n'allez plus continuer à vous dire « Je vis au maximum, et tant que je peux, je profite de la vie, et puis la mort va arrêter tout ça ». Mais non, mais faites pas ça, parce que pour le coup, vous allez tout perdre au moment du rendez-vous. Prenez la chose différemment. Suicidez-vous dès maintenant. C'est-à-dire qu'à partir de maintenant, on est mort. C'est-à-dire, c'est pas qu'on est mort, c'est qu'on a décidé de mettre fin à nos jours. Mais on décide pas nous-mêmes quand. Ça veut dire que, mais j'aime bien cette expression, j'ai jamais exploité, mais mettre fin à ces jours, je vous propose une chose, commençons par aujourd'hui. Mais c'est un truc d'articulation, je vous assure, c'est pas facile à dire. On va mettre fin à nos jours un par un, jour après jour, en essayant de ne pas anticiper sur l'avenir, en essayant de faire en sorte que toutes les projections qu'on a vers l'avenir, parce qu'il faut quand même faire des projets, soient faites avec une certaine légèreté, et en ayant un rapport au passé qui nous permet justement, disons, de le reconnaître comme une expérience de la mort. C'est-à-dire, la mort ne nous attend pas à la fin, là. Tout ce qui est derrière nous, Lucilius, c'est la mort qui le tient. Ça, c'est la lettre 1. Tout ce qui est derrière nous, c'est la mort qui le tient. Donc, l'expérience de la mort, on sait ce que c'est. Nos jeunes années sont derrière nous, nos jeunes années sont déjà mortes. Hier est déjà mort. Donc, mettons fin à nos jours, jour après jour, ça va nous mettre dans une posture par rapport à la vie qui va, nous donner un juste sens des proportions. C'est-à-dire que certains problèmes qui peuvent soudain, disons, nous obséder, nous offusquer, nous vraiment devenir obsédants, vont reprendre leur forme réelle, c'est-à-dire secondaire. Et j'insiste à nouveau, les gens qui vous parlent, les stoïciens, sont des gens qui ont connu des problèmes sévères. Sénèque, au moment où il écrit ce genre de choses, il a renoncé à l'ensemble de sa fortune. C'était l'homme le plus riche de Rome, il avait 400 millions de sesterces, il les a intégralement donnés à Néron pour essayer d'avoir la paix. Donc il est de riche et devenu pauvre. De plus, de conseiller du prince, il est devenu, disons, condamné à mort en sursis. Donc quand il vous dit ce genre de choses, c'est que le type est bien placé. Du coup, cette transformation-là, c'est une transformation qui vous permet de reconsidérer le passage du temps, plus du tout comme quelque chose de passif qui s'exercerait contre vous, mais comme quelque chose que vous favorisez vous-même à mesure que, justement, vous êtes en train d'accomplir votre vie. Et accomplir votre vie, c'est justement faire en sorte que chaque jour soit une entité complète. C'est très beau parce que, par exemple, dans les lettres à Lucilius, chaque lettre est écrite pour être une entité complète. C'est pour ça que ne soyez pas effrayés par le volume du livre. C'est pas un bouquin qu'on commence à la première page et puis comme ça, laborieusement, jour après jour, il faut lire des... C'est pas comme ça. C'est plutôt, vous le lisez quand vous en avez envie. Vous le lisez quand vous en avez besoin. Mettez-le n'importe où, sur votre chevet parce qu'il est beau. Aux toilettes parce que c'est là qu'on se cache pour avoir des moments intimes. Mettez-le n'importe où, mais surtout, ayez une pratique qui soit justement une pratique de la récurrence. Il ne faut pas lire ce livre, se l'avaler comme ça, comme un truc, comme une soupe qu'il faudrait manger jusqu'à la dernière cuillère. Ce n'est pas comme ça. C'est un livre qui est disponible pour tous les moments d'épreuve et tous les moments tout le moment de besoin, quoi. Et c'est de cette manière-là qu'en effet, chaque jour devient cette unité qu'on est capable de clore sur elle-même et qui, à chaque fois, nous apprend, nous habitue, en fait, nous prépare, nous entraîne à un moment qui sera un moment de test. Et Sénèque, lorsque Lucilius lui demande « Mais toi, tu me donnes de bons conseils, mais toi, est-ce que tu es un sage ?» Et Sénèque lui répond « Eh bien, moi, je n'en croirai que la mort. » C'est-à-dire, c'est au moment d'un certain rendez-vous qu'on verra bien comment je me comporterai. Donc, on verra. Il se trouve que nous savons, puisqu'on vient quand même longtemps après lui, que Sénèque a eu une mort exemplaire. C'est-à-dire que le jour où, en effet, le 12 avril 65, des légionnaires ont tapé à sa porte pour lui annoncer que l'empereur le déclarait ennemi de l'État et qu'il lui donnait le libre choix de sa mort, eh bien, Sénèque n'a pas tremblé. Il n'a pas gémi, il ne s'est pas plaint, il ne s'est pas effondré. Il s'est dit, tiens, c'est le moment pour moi de conclure ma vie. Il fait ce geste de pivot qui est tellement important dans les dernières années de sa vie pour tout le monde, en fait, ou dans les derniers moments, qui consiste à dire, bien, je m'en vais. Voilà. Et c'est de cette manière qu'en fait, il a donné l'exemple à la fois d'une certaine manière de mourir et à travers cette manière de mourir volontairement, d'une certaine manière de vivre librement.
Maxime Rovert, merci beaucoup pour cet appel justement à cette vie libre et exemplaire. Merci beaucoup pour cette traduction et cette présentation.
Merci à vous.
Merci Pierre.